Et nous lirons un certain nombre d'extraits issus du petit livre de Jonas. D'abord Jonas, chapitre 1, versets 1 à 11. « La parole du Seigneur parvint à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais une proclamation contre elle, car le mal qu'elle a fait est monté jusque à moi. » Alors Jonas voulut s'enfuir à Tarsis pour échapper au Seigneur. Il descendit à Jaffa et trouva un bateau qui allait à Tarsis. Mais le Seigneur lança un grand vent sur la mer et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Les marins eurent peur. Ils dirent à Jonas, « Que devons-nous faire pour que la mer se calme envers nous ?» Ils savaient en effet qu'il fuyait pour échapper au Seigneur. Il leur dit, « Prenez-moi. » « Lancez-moi à la mer et la mer se calmera envers vous. » Un peu plus loin, au chapitre 2, versets 1 à 3 et 3 à 5. « Le Seigneur fit intervenir un grand poisson qui engloutit Jonas, et Jonas resta dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Et Jonas prit. « Dans ma détresse, j'ai invoqué le Seigneur, et il m'a répondu, « Du sein du séjour des morts, j'ai appelé au secours, et tu m'as entendu. » Tu m'as jeté dans les profondeurs, au cœur des mers, les courants m'entourent, tous tes flots, toutes tes vagues ont passé sur moi. Et moi je disais, je suis chassé loin de tes yeux. Je suis descendu jusqu'aux ancrages des montagnes, les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Seigneur mon Dieu. » Et au même chapitre, verset 11, « Le Seigneur parla au poisson » qui vomit Jonas sur la terre ferme. Au chapitre 3, versets 1 à 6, « La parole du Seigneur parvint à Jonas une deuxième fois. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je te dis. » Alors, Jonas alla à Ninive selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une grande ville devant Dieu. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Jonas commença par faire dans la ville une journée de marche. Il proclamait « Encore 40 jours et Ninive est détruite !» Les gens de Ninive mirent leur foi en Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent d'un sac, depuis le plus grand jusqu'au plus petit d'entre eux. Et Jonas, chapitre 3, « Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur voie mauvaise. Alors Dieu renonça au mal dont il avait parlé de leur faire, et il ne le fit pas. » Jonas, au chapitre 4, réagit très mal. « Ce fut très mal pris par Jonas qui se fâcha. Il pria le Seigneur en disant, « S'il te plaît, Seigneur, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est pourquoi j'ai préféré fuir à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu clément et compatissant, patient et grand par ta fidélité, qui renonce au mal. » « Maintenant, Seigneur, prends ma vie, je t'en prie, car mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Le Seigneur répondit, « Fais-tu bien de te fâcher ?» Voilà, quelques extraits de ce livre de Jonas. Alors voilà une histoire dont les petits-enfants sont friands. Je me souviens d'un jeu biblique il y a quelques années, ici même, au cours duquel un père de catéchumène avait construit une baleine dans laquelle un enfant se tenait et manipulait une poire qui lançait de l'eau. C'était superbement fait, comme s'il s'agissait de l'évent d'une baleine. Une histoire où Jonas reste vivant dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Tiens, 3 jours et 3 nuits, ça me rappelle quelque chose. Et compose une longue prière ainsi enfermée avant d'être recraché sur le rivage. Une histoire à dormir debout, une histoire pour tout petits-enfants. Cependant, en y réfléchissant un peu, aurait-on laissé ce livre dans le canon de la Bible s'il n'était que cela ? Il convient bien entendu de dépasser cette vision enfantine du conte. Et souvenons-nous que Jonas veut dire « colombe », comme l'oiseau qui annonce à Noé la fin du déluge, annonce du pardon de Dieu pour l'humanité. Tout d'abord, se replonger dans l'histoire de Jonas. Jonas, fils d'Amittai, vivait sous le règne de Jéroboam II, roi de Samarie, entre 787 et 747 avant Jésus-Christ. Donc avant la grande déportation à Babylone. À cette époque, un conflit faisait rage entre ce royaume et la Mésopotamie. Hélas, les nouvelles récentes sont proches. Royaume puissant et impérialiste dont la capitale était Ninive. Ninive est près de l'actuel Mossoul, au nord-ouest de l'Irak. Deuxième ville du pays encore aujourd'hui. Jéroboam avait réussi à maintenir son royaume dans ses limites initiales au prix de durs combats et de longues souffrances. Jonas était un prophète patriote, assez extrémiste dans son sentiment patriotique, voire belliqueux. Il était mu par la volonté de destruction de l'ennemi. Et cette Ninive abhorrée, sûrement pas une quelconque mansuétude à son égard. Hostilité mêlée de crainte, bien entendu. Car Ninive était très puissante. Cette crainte était manifestement prépondérante quand Dieu lui demanda d'aller à Ninive, lui annoncer sa perte. Imaginons ça. On connaît bien le sort réservé aux porteurs de funestes nouvelles, notamment à cette époque, même aujourd'hui, a fortiori, quand ce porteur est un ennemi. La torture et la mort. On pourrait même transposer, évidemment, hélas, à certaines situations d'aujourd'hui. Donc Jonas a peur. Et par un anthropomorphisme très marqué, qui va se poursuivre tout au long de ce récit, Jonas pense qu'en s'éloignant le plus possible de la terre où Dieu est supposé résider, la Judée, il lui échappera. Il ne réfléchit pas davantage, il va se sauver. Et là, il fait le maximum. Il devait aller à Ninive, alors Ninive, pour vous situer, si certains d'entre vous ne l'ont plus en tête, au-delà du désert irakien, à l'autre bout du croissant fertile, tout à l'est, faisant à rebours le chemin qu'avait suivi Abraham. Et il s'embarque pour Tarsis. Alors, Tarsis est encore moins connu. Et Tarsis était situé au-delà des colonnes d'Hercule, au-delà de Gibraltar, c'est-à-dire à l'embouchure du Guadalquivir. Guadalquivir, c'est le fleuve qui passe à Séville et qui se jette dans l'Atlantique. À l'extrême ouest, il fallait pour y aller traverser toute la Méditerranée d'est en ouest contre les vents dominants, passer Gibraltar dont le courant dominant est ouest-est qui était difficilement franchissable. Donc vraiment la route la plus longue et la plus difficile connue à l'époque. Au diable. Dieu le laisse faire. Il le laisse y aller, lui laisse sa liberté. Ben, l'homme est toujours libre de choisir sa vie. D'ailleurs, péché, n'est-ce pas, étymologiquement parlant, prendre le mauvais chemin. Quand on a de deux, on prend le mauvais, simplement. Les Hébreux de cette époque, comme les Juifs d'aujourd'hui, n'étaient pas des marins dans l'âme. La mer leur inspirait une peur panique, l'abîme sans fond les terrifiait et représentait l'image de la mort par ensevelissement. Et c'est vers cette mort horrible que va Jonas. Une tempête se lève, violente et brutale, comme il s'en lève souvent en Méditerranée. Le bateau devient incontrôlable. Par un réflexe que nous connaissons encore aujourd'hui, avant de rechercher une solution, on cherche un coupable. Pourquoi faire? On se demande, mais il faut toujours un coupable. C'est Jonas qui avait avoué à l'équipage fuir les ordres de Dieu, et ce dernier, éprouvant lui-même un sentiment de culpabilité, demande à ce qu'on le jette à l'eau, malgré les efforts louables de l'équipage pour lui éviter ce sort funeste. Ils avaient essayé de ramer contre un vent violent en Méditerranée. Je sais ce que c'est pas facile. Et c'est l'enfouissement dans l'abîme, la mort. Et comme si l'abîme des faux furieux ne suffisait pas, il finit dans le ventre d'un énorme poisson. Parenthèse, pendant très longtemps et jusqu'à la fin du 19e siècle, les hommes ont appelé les baleines des poissons. Les baleiniers appelaient ça « Ah, le poisson qui souffle bon. ». D'où la représentation commune de ce poisson transformé en baleine. L'anéantissement total. Alors, premier petit enseignement de ce livre. Désobéir consciemment à Dieu, même si l'homme est laissé libre de le faire, c'est la mort. Et puis Jonas prie le Seigneur, prière bien curieuse, double, à la fois expression du désespoir total et ouverture d'une espérance, d'un appel à la grâce de Dieu contre toute attente, contre toute logique. Donc, autre miracle bien significatif, cette étrange prière double de Jonas dans le ventre du poisson, à la fois conscience de sa perdition totale, de son désespoir, et très curieusement prière d'espérance, niant l'évidence, prière que Dieu ne l'abandonnera pas, même au plus profond du désespoir humain, l'espérance en la grâce de Dieu. C'est un peu ce que nous faisons aussi dans la prière, quand nous prions pour le pardon de nos péchés. Et Dieu pardonne à Jonas. Le poisson recrache ce dernier sur le rivage. Alors, deuxième enseignement, Dieu pardonne même à celui qui volontairement s'est éloigné de lui. Rien n'est jamais perdu. Cette situation à dormir debout était bien entendu présente dans ce texte pour exprimer au lecteur l'infinie miséricorde de Dieu, son amour incommensurable pour l'homme. Et Jonas semble enfin comprendre. Il va obéir à Dieu, aller à Ninive. Il y va. L'immensité de la ville l'effraie, mais qu'importe. Il délivre son message. Et son message, il est violent. Bande de mécréants, d'ordures, Dieu vous a condamné. Dans 40 jours, votre ville dont vous êtes si fiers sera détruite. Il y va carrément. C'est cet oracle qui clame à ses ennemis, à ceux que son peuple combat, ceux que les Hébreux, sujets de Jéroboam, combattent sans relâche, l'ennemi absolu. On peut penser que même si Jonas n'espère pas s'en sortir vivant, il est content de cracher cette condamnation à la face de ses ennemis. Il a la rage, dirait-on aujourd'hui chez certains de nos jeunes. Mais que se passe-t-il ? Nouveau miracle aussi extraordinaire que les précédents, les Ninivites, du plus petit jusqu'au plus grand, du mendiant au roi, se convertissent et demandent le pardon de Dieu s'il était possible. Alors, un troisième enseignement. La conversion, la fidélité à l'Éternel n'est donc pas réservée aux seuls Hébreux. Elle s'étend même à leurs ennemis jurés, au diable personnifié. C'est un peu scandaleux pour le lecteur juif, représentant du peuple élu. Et oui, la grâce de Dieu ne leur est pas exclusivement réservée, c'est incroyable. Quel scandale, c'est un comble. Dieu pardonne aux Ninivites, contrairement à ce que proclamait avec rage Jonas, Ninive ne sera pas détruite, Dieu lui accorde son pardon. Un quatrième enseignement. Le pardon de Dieu n'est donc pas réservé aux Hébreux et aux autres croyants. Il est possible à quiconque, même aux pécheurs les plus impénitents, de l'obtenir. Et Jonas montre encore son anthropomorphisme. Mais il est furieux. Comment ? Il a tout fait, tout subi. Il a obéi aux ordres de Dieu malgré le risque immense. Et Dieu ne fait pas ce qu'il avait promis. De quoi a-t-il l'air maintenant, Jonas ? D'un bouffon, dirait nos jeunes. Non, c'est insupportable. Jonas n'a toujours pas compris que la miséricorde divine s'adresse à toute l'humanité sans aucune distinction. Jonas a décidément du mal à comprendre et les voies de Dieu sont difficilement admissibles pour les hommes. Mais que dirions-nous aujourd'hui à la place de Jonas ? Même si nous connaissons bien ces phrases « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent », c'est même dans la prière que nous récitons à chaque culte. Voici donc les quelques leçons que nous donne ce texte qui pourrait nous faire sourire par ses invraisemblances, clairement voulues pour faire passer des messages profonds, comme plus tard les paraboles de nos évangiles. D'abord, Dieu nous laisse libre de nos choix, mais ne pas le choisir volontairement, conduite à l'anéantissement. Ensuite, dans la misère la plus profonde, la mort et l'anéantissement, l'espérance peut être toujours présente. Puis, la grâce de Dieu peut être ressentie par tout homme, toute race, toute nation, même celles qui nous apparaissent les plus perverses. Il y a toujours un espoir. Enfin, cette grâce divine peut de même advenir pour tout un chacun, pour l'humanité tout entière. Ce petit livre de Jonas peut être considéré comme un lointain précurseur de nos évangiles, les livres de la bonne nouvelle. Mais nous sommes tous une race à la nuque raide, lente à comprendre et à admettre la grâce de Dieu, qui avons tendance à extrapoler nos propres sentiments et à les prêter à Dieu, aujourd'hui comme autrefois. Ce conte pédagogique est bien là pour nous le rappeler. Amen.